Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, en arrivant, on m'a proposé une citation de saint Augustin. Je ne vous la répéterai pas, elle est un peu, disons, relativement longue. Résumons-la en une suite de cinq verbes. Voir, supporter, tolérer, accepter et approuver. Le premier entraîne le suivant, et ainsi de suite. Selon saint Augustin, c'est à force de tout voir qu'on finit par tout approuver. Peu importe ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce dont vous prenez connaissance, parlons de manière globale et universelle, peu importe ce que c'est, vous finirez par l'accepter. Cruelle destinée. Si mes yeux se posent sur des crimes atroces, sur des meurtres sordides, mon cœur finira-t-il par les accepter? En somme ici, ce que saint Augustin nous dit, c'est que toute morale, toute éthique, toute manière de juger du bien ou du mal, toute manière d'approuver, est condamnée à s'éroder. Prenons un exemple extrême. Le génocide. Peu importe qu'il date, ou que ce soit un de ceux qu'on commet encore de nos jours, l'approuvons-nous? Non. Et si quelqu'un ici les approuve, je doute pouvoir le convaincre. De fait, je l'engage à sortir. La porte, elle est là. Bien, il n'y a personne qui sort. Pourtant, on ne le remarque pas forcément au premier abord. Mais la citation est intemporelle. Approuver est postérieur à voir. Donc, les générations futures pourraient approuver des génocides? Prenons le plus jeune dans cette salle. Imaginons ses petits-enfants. Et prenons encore leurs petits-enfants. Pourraient-ils approuver des génocides? J'espère que non. J'espère que le génocide ne deviendra pas une stratégie ou une technique militaire, comme le blocus, la guérilla ou le coup d'État. Mais qui sait? Je ne serai plus là pour le voir. Alors que puis-je y faire? Comment inculquer une morale aux enfants si elles sont par nature périssables? À consommer avant 2022 pour cette idée-là? À consommer avant 2035 pour cette doctrine-ci? Eh bien, chaque génération héritera du fardeau de devoir se recréer une morale. Mais bon, de toute façon, saint Augustin n'a pas connu des génocides. Le mot n'existait pas encore. Après le crime, le châtiment. Est-ce que le voir, c'est l'approuver? Est-ce qu'un avocat voyant son client pendu approuvera? Non. Mais après plusieurs générations, peut-être qu'on se dira que oui, c'est ce qu'il méritait. C'est de toute façon le même raisonnement qui nous permet de répondre de la même manière et d'arriver à la même conclusion à tous les problèmes d'éthique. Alors, où chercher de nouveaux exemples? De quoi vais-je parler ensuite? Pensons. Faisons de la philosophie. Un autre domaine de la philosophie, c'est l'esthétique. La beauté des choses. Est-ce beau? Est-ce laid? Est-ce que voir une œuvre, lire un sonnet et entendre un concerto, c'est l'approuver? Ici, c'est plus compliqué que tout à l'heure. On peut sortir du cinéma en se disant que on a perdu 2 heures, que c'était naze. Le temps ne résoudra rien. Peu importe, à force de le voir, on finit par l'approuver, après être passé par toutes les étapes. Mais on ne l'approuve pas beau. On ne l'approuve pas laid. On l'approuve en tant qu'œuvre d'art. Et si l'on veut approuver une œuvre d'art en tant que beau ou l'est. Ne venez pas me parler d'un concept relatif, la beauté, quand on a une citation intemporelle qui vise à être absolue. Allons. Je vois que vous voulez encore parler d'esthétique. Après tout, je comprends, le sujet est agréable, c'est toujours plaisant de se rappeler les romans qu'on a lus avec plaisir, les pièces qu'on a vues avec joie, les musiques qu'on a écoutées avec félicité. Je vais donc parler de manière concrète, de mouvements artistiques qu'on a vus, critiqués avec ardeur, et ensuite reconnus. Un exemple marquant est le surréalisme, d'abord critiqué, ensuite reconnu et approuvé. On peut citer tous les mouvements qui étaient également en rupture avec la tradition. De même, les auteurs. De même, un autre cas, celui des artistes qui sont devenus connus après leur mort. Quid par contre des artistes que l'on connaît quasi tous, mais que l'on a pour la plupart jamais lus? Soit vous pouvez les lire et considérer que c'est des œuvres d'art, soit vous prenez l'avis des autres et vous considérez aussi que c'est des œuvres d'art, peu importe. Dans tous les cas, celui qui considère que ce n'est pas une œuvre d'art est juste un esprit obtus. Heureusement, Saint-Augustin ne va pas rentrer dans la salle pour me dire qu'il déteste les tableaux de Picasso, que ce n'est pas de l'art et que c'est absolument affreux pour lui. Ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens vu qu'il détesterait donc du non-art. C'est illogique. Quelle magnifique transition vers la logique! Si je vous démontrais rigoureusement le théorème de Thalès, seriez-vous en mesure de l'approuver après l'avoir vu? Naturellement. Voilà, on peut dire que vous l'aurez vu et approuvé. Mais la logique, ce n'est pas que construire un raisonnement à partir d'un postulat de base. C'est aussi répondre à la question « Comment savons-nous ?» Et là, pour que la connaissance existe, qu'elle soit approuvée, il faut la voir au préalable. Et qui pourrait voir la connaissance dans un être si ce n'est son créateur? On peut supposer que saint Augustin est un homme pieux, ayant la foi, croyant en Dieu. Dès lors, pour moi, ce n'est pas un prédicateur sans argument, c'est un homme qui a rendu sa foi légitime. Précisons quand même que cela fonctionne aussi avec un de ses semblables comme observateur. Ce n'est pas la preuve ultime de l'existence de Dieu. C'est néanmoins une idée intéressante. Vous l'aurez deviné, il ne reste plus des masses de branches philosophiques. La dernière étant la métaphysique. C'est de loin la plus vaste et la plus complexe. Avec des questions comme « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ?» Ou encore « D'où est-ce que je viens ?» Nous pourrions rester ici des jours pour répondre à ces questions. Il ne fait presque aucun doute que saint Augustin, lui, se satisfaisait des réponses apportées par la Bible. Néanmoins, ce n'est pas mon cas. Je juge que ces questions ont une importance vitale. Pour autant, je doute qu'on puisse approuver des réponses qui n'existent pas. Alors je citerai Sénèque. Avec un aspect très métaphysique, sa citation s'est imposée à moi. La vie, c'est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Plutôt que m'attarder des heures à disserter sur toutes les questions métaphysiques qu'on peut se poser et comparer avec ce qu'a dit saint Augustin, je dirais que oui, cet homme avait raison, que sa foi est à mes yeux légitime, et que oui, à force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Pour moi, c'est vrai, car je ne peux démontrer le contraire. Merci.
Un mois sans râler. Cette initiative vient d'être lancée par la Flandre. Est-ce que c'est possible pour vous, un mois sans râler?
Pour moi? J'aurais tendance à dire que oui. Mais j'entendrai ma famille dans le coin, là-bas, oui, déjà ils sourient, c'est mauvais signe. Dire que non. Mais un mois sans râler, c'est aussi la question, quel est le but à tout ça? Un mois sans alcool, on comprend, c'est une pathologie. Un mois pour le sida, par exemple, on comprend, mais un mois sans râler, ce serait un mois pour éviter quoi? Les agressions? Les agressions sexuelles sur les femmes? C'est pas... Pour moi, ce n'est pas un mois qui se justifie. On pourrait d'abord penser à d'autres personnes qui souffrent un peu plus que des râleries. Ce n'est pas le mal du siècle. Merci.